Tout de suite, Science Publique, Michel Alberganti.
Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Science Publique. Vous retrouvez aujourd'hui notre émission mensuelle réalisée en partenariat avec le magazine Science et Vie. Comme toujours, vous pouvez nous adresser vos réactions et commentaires au sujet de notre débat d'aujourd'hui. Notre intestin est-il le pilote de notre santé ? D'un côté, il y a le gène. Le gène fait souvent figure de Graal de la médecine depuis le séquençage du génome humain qui s'est achevé en avril 2003. Nous vous avons parlé en détail de la technique CRISPR-Cas9 dans les émissions de Culture Science pendant la semaine du 14 mars dernier. Il s'agit de modifier le génome humain pour éviter certaines maladies avec les questions éthiques que pose une telle manipulation. D'un autre côté, il y a la bactérie. La bactérie est souvent associée à la maladie avec les infections combattues à l'aide des antibiotiques. Mais depuis quelques années, cette image est en train de changer. En effet, il se trouve que notre intestin est colonisé par pas moins de 10 000 milliards de bactéries. Ces bactéries appartiennent à plusieurs centaines d'espèces différentes. Si l'on fait la somme de leur génome, on obtient près de 600 000 gènes, soit nettement plus que les 20 000 gènes de notre propre ADN. Cette population qui peuple notre intestin, baptisée microbiote, semble jouer un rôle très important pour notre santé. Les chercheurs ont été surpris de constater des différences très importantes entre les microbiotes de chacun de nous. Peut-on agir sur ce microbiote pour améliorer notre bien-être à la fois physique et moral ? C'est toute la question qui pourrait ouvrir un nouveau champ de réflexion à la fois sur notre alimentation, mais aussi sur des thérapies faisant appel aux bactéries de notre système digestif elle-même. Nous allons débattre aujourd'hui du potentiel de ce microbiote sur la santé dans Science Publique. Pour cela, nous recevons en direct depuis le studio 1 de la Maison de la Radio André Burkel, pharmacien biologiste, expert en immunologie, en infectiologie, en nutrition et en micronutrition et auteur du livre « Le régime microbiote, la santé passe par nos intestins » qui paraît aujourd'hui même chez Mediclaro et donc en 2016 bien entendu. Patrice Debré est professeur d'immunologie à l'université Pierre et Marie Curie. Paris 6 est l'auteur de L'homme microbiotique qui est paru chez Odile Jacob en 2015. Guillaume Font est psychiatre à l'hôpital Henri Mondor, enseignant à l'université Paris-Est Créteil, chercheur à l'INSERM et coordinateur du réseau des centres experts schizophrénie de la Fondation Fondamentale. Et nous sommes également avec Caroline Tourbe, chef du service médecine du magazine Science et Vie. Je vous rappelle que vous pouvez de nouveau nous communiquer vos commentaires, vos réflexions et vos témoignages directement sur le site de Science Publique sur franceculture.fr. Caroline Tourbe, bonjour.
Bonjour.
Donc vous publiez donc dans le numéro d'avril de Science et Vie qui sort aujourd'hui même, vous venez nous l'apprendre, un dossier qui est intitulé « Les super pouvoirs du ventre ». Alors on parle depuis quelque temps du système digestif comme notre second cerveau, mais là vous vous intéressez plus précisément aux microbiotes qu'aux neurones de l'intestin, même si le lien est assez fort entre eux.
C'est vrai.
Alors pour quelle raison cet intérêt pour nos intestins ?
Alors c'est pas un intérêt récent pour Science et Vie. Ça fait une dizaine d'années que Science et Vie s'est penché, une bonne dizaine d'années que Science et Vie s'est penché pour la première fois sur les bactéries qui vivent en nous, avec nous. Et c'est vrai qu'au début, même pour moi ou pour mes collègues, il y avait une forme un peu de scepticisme, mais les connaissances sont tellement évoluées et les données sont tellement intéressantes et parfois assez spectaculaires que c'est vrai que l'intérêt pour le grand public, pour nos lecteurs, pour nous, n'a cessé de croître et qu'il était bienvenu de faire un gros dossier. On a donc fait plusieurs articles, mais là, un gros dossier vraiment qui essaye d'embrasser le plus largement possible nos bactéries intestinales et donc notre microbiote.
Voilà, mais ce qu'on va poursuivre également dans cette émission. Patrice Debré, bonjour.
Bonjour.
Donc votre livre est intitulé « L'homme microbiotique », ce qui il analyse ce mystère de la vie en commun entre l'homme et les microbes. Est-ce qu'il s'agit d'une révélation et pour vous, de quand date la prise de conscience un petit peu de l'importance de ce microbiote ?
Moi, depuis toujours, vous savez, je suis un immunologiste, je m'occupe aux défenses immunitaires et par conséquent, il était logique que je m'intéresse aux microbes, particulièrement aux microbes qui vivent en nous. Mais à travers ce titre, en fait, c'est une vraie question. C'est la vision de l'homme comme une chimère, au fond. Qu'y a-t-il d'humain dans l'homme? Et peut-être peut-on démarrer de deux chiffres pour y répondre. Il y a 10 fois plus de bactéries que de cellules humaines dans l'homme. 10 fois plus. Réparties dans différents endroits du corps, dont l'intestin. Et vous parliez des gènes tout à l'heure, mais si vous prenions l'homme et qu'on le passait à une moulinette, 99% des gènes qui nous composent sont des gènes de bactéries. 1% c'est de l'homme.
Et Guillaume Font, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychiatre et alors vous vous intéressez également de près au microbiote. Pour quelle raison ?
Alors, au début des années 2000, il y a eu des expériences très spectaculaires chez l'animal qui ont montré que des souris qui naissaient en conditions stériles développaient de gros troubles anxieux et des comportements qui ressemblent à la dépression chez l'homme. Et que quand on recolonisait leur tube digestif avec des bactéries, ces troubles anxieux disparaissaient. Mais ça, c'est seulement si on recolonisait précocement, si on attendait trop longtemps, les troubles anxieux restaient persistants. Et donc c'est à partir de là qu'on a pris conscience qu'il y avait des liens très importants entre le développement des bactéries dans le tube digestif et le développement du système nerveux central, donc notre cerveau. Et chez l'être humain, en fait, on a des nouvelles données dont on va parler aujourd'hui, très prometteuses, à la fois sur les liens justement entre les bactéries, l'anxiété, les émotions, l'apparition possiblement de la dépression et d'autres troubles psychiatriques hein, comme l'autisme ou la schizophrénie par exemple.
Très bien, ben effectivement un joli programme, on a essayé de l'aborder. Nous sommes également avec André Burkel qui est avec nous en duplex depuis Toulouse. Alors votre dernier livre est intitulé « Le régime microbiotique ». Donc là on va parler évidemment d'alimentation, ça sera aussi un des thèmes de cette émission. Mais en introduction, comment avez-vous découvert de votre côté que notre santé dépend pour une bonne part de notre intestin ?
J'ai découvert ça à travers le fait de lire évidemment beaucoup de publications, commençant en 2004, où on s'est rendu compte que lorsqu'on implantait un microbiote chez une souris qui n'avait pas de bactéries, elle prenait du poids. Donc ça veut dire que le microbiote était un énorme potentiel d'extraction d'énergie. Et il y a un an à peu près, j'ai commencé à proposer à des médecins l'évaluation du microbiote intestinal, c'est-à-dire la possibilité de connaître toutes les espèces présentes chez chacun. Et quand vous disiez à chacun son microbiote, c'est assez hallucinant la différence qu'il y a d'une personne à l'autre. Mais c'est bien d'évaluer quelque chose, c'est bien, on est sur des gènes, ça pose quand même parfois de gros problèmes. Est-ce que ces gènes s'expriment ou s'expriment pas? Et donc, tout de suite derrière, nous avons mis en place l'expression de certaines molécules fabriquées par les bactéries qui s'appellent des métabolites et qui a donné lieu à un nom savant qui s'appelle le métabolome. Et quand on fait une évaluation, qui est une évaluation, je dirais, qui va servir pour un patient, on ne peut pas se soustraire à un point extrêmement important. Un médecin, quand il reçoit une analyse, il ne sait pas quoi en faire. Et pour le microbiote, il y a quand même un abord extrêmement important qui m'a facilité la vie. C'est que toutes les bactéries ont besoin d'être nourries et il se trouve que les bactéries ont besoin d'une nourriture assez spécifique dont on va reparler au cours de ce débat et c'est ce qui a fait que j'ai beaucoup travaillé sur l'aspect des prébiotiques mais sous l'angle alimentaire.
Voilà, on va parler effectivement des prébiotiques, des probiotiques. Mais avant tout, Caroline Tourme, il faut peut-être redéfinir ce qu'est le microbiote. On a parlé de ces bactéries. Est-ce qu'on peut en dire un peu plus sur de quoi il est constitué ? Il y a à la fois un nombre hallucinant de bactéries, mais également d'autres organismes. Il y a une variété à la fois d'espèces de bactéries, mais aussi d'autres organismes.
C'est vrai que là, on va parler des bactéries, et puis c'est en nombre, c'est elles qui l'emportent. Mais il y a aussi des virus. On commence à peine à s'y intéresser. Quelques études un peu qui essayent justement d'évaluer le type de virus qui vivent en nous. Et ils sont à 90% inconnus. On les connaît pas. Et il y a aussi des champignons. Voilà. Mais c'est vrai que ce bestiaire est largement dominé par les bactéries. Et que quand on dit microbiote, nous, dans notre dossier, on s'est intéressé au microbiote intestinal, celui qui vit dans notre ventre, mais plus généralement, le microbiote, ce sont toutes les bactéries qui vivent en nous, sur nous, donc le microbiote de la peau, et il y a des échanges qui peuvent être faits. Voilà, c'est toutes ces bactéries qui vivent avec nous, tout contre nous ou en nous.
Alors Patrice Debré, l'origine de ce microbiote, est-ce qu'on peut dire qu'il a toujours existé, que l'homme n'existerait pas sans lui, ou bien est-ce qu'il s'est développé?
La bactérie d'abord a vécu avant l'homme.
A vécu avant l'homme, oui.
Bon, donc c'est l'homme qui effectivement a attrapé les bactéries par la suite. Non, on a affaire à un phénomène assez connu dans le monde vivant, qui est probablement un des phénomènes les plus importants d'évolution, qui est ce qu'on appelle la coévolution. C'est-à-dire que les êtres n'évoluent jamais seuls, ils évoluent ensemble. Chose qu'on a découvert à peu près au 19e siècle, au moment où Darwin parlait de la sélection, on s'est aperçu que la sélection s'exerçait aussi aux dépens des êtres qui s'associent les uns aux autres. La première démonstration est le lichen, qui est fait d'une plante et d'une algue. Et ces deux espèces, en fait, vivent en parfaite espèce commensale, on va dire l'une sert à l'autre. Et si on en détruit l'une, eh bien l'autre meurt. C'est ça l'homme et le microbe. Si vous détruisez le microbe, il meurt, et réciproquement.
Guillaume Font.
Et il y a un phénomène qui est assez surprenant dans l'évolution, justement, puisqu'on en parle, c'est ce qu'on appelle la théorie du transfert horizontal de gènes. On retrouve des gènes chez les bactéries du tube digestif et chez l'homme, mais pas chez les étapes intermédiaires, chez certains champignons, certaines plantes et même certains animaux. Donc l'hypothèse, en fait, c'est qu'à certains moments de l'évolution, il y a pu y avoir comme ça des gènes qui ont été transférés des bactéries à l'homme. Et ce qui est très surprenant, par exemple, c'est que des bactéries synthétisent des neurotransmetteurs comme la dopamine ou la sérotonine que nous avons dans le cerveau.
Patrice Debré.
Oui, en fait, vous savez que les bactéries sont des êtres sexués. Hein. Il y a des bactéries mâles, des bactéries femelles, et bien sûr, le mâle fait pénétrer le chromosome dans la femelle. Vous avez une jolie image qui se passe au fond des abysses. Vous avez deux races de poissons qui cohabitent. Vous allez les voir. Nous sommes dans le noir le plus complet, et dans la paupière inférieure de la première race espèce de ces poissons se trouvent des bactéries lumineuses. Quand ils soulèvent la paupière supérieure, à ce moment-là, il y a un phare et il peut se diriger. Et puis, il y a une deuxième espèce de poisson où les gènes ont été complètement intégrés au génome du poisson. Il n'y a plus besoin de bactéries et c'est cinq gènes à eux seuls qui suffisent à donner de la lumière. Extraordinaire.
Alors l'exemple que vous donnez là est fascinant avec ce poisson, avec ses yeux phares grâce à des bactéries. Pour l'homme, qu'est-ce qu'apportent ces bactéries à notre organisme, Patrice Devoy?
Alors elles ont à l'heure actuelle deux grands rôles physiologiques, deux grands rôles physiologiques connus, il y en a peut-être d'autres. Le premier, on va en reparler probablement tout à l'heure, c'est elle est utile à la digestion, en particulier de la digestion de l'amidon. Et le deuxième, et c'est pour ça que quelqu'un comme moi qui est immunologiste est fasciné, elle éduque le système immunitaire. Et de manière tout à fait extraordinaire, les bonnes bactéries, celles qui vivent en nous, éduquent le système immunitaire à lutter contre les mauvaises, et donc éliminer les pathogènes. Remarquable.
Et comment ça se passe?
Ah, eh bien c'est l'objet d'un temps...
Parce que vous parlez de ça comme si c'était une évidence.
Non, c'est l'objet d'un temps de recherche. J'ai commencé dans les matières expérimentales. Vous partez d'abord d'observation, et petit à petit vous essayez de comprendre. On est encore à une certaine étape de la compréhension du système, et on sait que effectivement ça induit une sorte de différenciation et de maturation du système immunitaire. Pour aller un peu plus loin, mais c'est compliqué.
Caroline Tourbe.
On a été confronté un peu justement à cette question. C'est vrai qu'il faut expliquer quel est le lien entre la bactérie et puis le reste de l'organisme. L'une des idées qui peut venir, c'est de dire c'est les bactéries qui voyagent ailleurs dans l'organisme. Alors, c'est important peut-être d'expliquer que les bactéries, elles sont dans notre intestin. La plupart du temps, elles vont y rester. En fait, elles envoient des sortes de messages ailleurs dans l'organisme. Il y a plusieurs voies qui permettent de véhiculer ces messages, qui vont servir à plusieurs choses. Il peut y avoir la voie du système nerveux. Elles vont envoyer des messages. On parlait de neurotransmetteurs. Elles vont fabriquer des petits messages chimiques qui vont passer la paroi de l'intestin, puis qui vont le long des voies nerveuses se disséminer. Et puis il y a aussi le système sanguin et le système immunitaire. C'est trois grandes autoroutes ou trois grands moyens entre les bactéries pour communiquer avec le reste de l'organisme.
Guillaume Font.
Oui, tout à fait. En fait, le nerf vague, qui est un très long nerf, en fait.
Qui relie l'intestin au cerveau.
80% de ces informations montent de l'intestin vers le cerveau. Donc, 80% des informations, ça va de l'intestin vers le cerveau.
C'est un peu le contraire de ce qu'on pensait, oui.
Exactement. On croyait que c'était l'inverse. Et, par rapport aussi à la barrière digestive, on pense que les bactéries ont une fonction très importante pour aider notre intestin à rester imperméable en limitant l'inflammation au niveau de l'intestin. Et comme on le disait, effectivement, dans certaines conditions pathologiques, cet intestin peut devenir perméable quand les bactéries sont perturbées et laisser passer tout un tas de molécules qui peuvent ensuite perturber l'ensemble des organes.
Patrice Debré.
Oui, non, juste pour dire que les bactéries circulent aussi. Si vous injectez des bactéries fluorescentes, vous les trouvez qui circulent, et vous trouvez en particulier dans le lait de la mère, qui nourrit son enfant, des bactéries qui viennent de l'intestin et qui sont réintroduites par conséquent dans la bouche de l'enfant et dans son propre microbiote. Extraordinaire, non?
Alors, il semblerait que le microbiote d'un nouveau-né se développe dès sa naissance, peut-être avant, je ne sais pas. Toujours est-il que la naissance elle-même semble avoir un impact important sur le microbiote et que les naissances qui se passent par césarienne posent problème par, justement, un défaut, peut-être, de constitution de ce microbiote initial. Est-ce que c'est le cas? Et aussi, quel est l'impact du lait maternel sur les premiers instants de la vie de l'homme, Patrice Debré?
L'enfant n'est stérile, enfin l'enfant ou l'animal d'ailleurs, et il se reconstitue à partir du microbiote qui est différent selon qu'on est par voie basse, c'est-à-dire naturelle au fond, ou par césarienne. On n'avait pas tout à fait le même microbiote, ça change au bout d'un certain temps, au point même que je me retourne vers mon collègue de gauche, au point qu'on dit que par césarienne, vous êtes un peu plus stressé que dans les gens qui sont un peu plus stressés dans la vie que les autres, peut-être par modification du microbiote initial.
Ça voudrait dire que ce microbiote initial continue à avoir un impact bien plus tard. Guillaume Font ?
Oui, on a des études ont montré que des enfants de 8 ans qui étaient nés par césarienne avaient des microbiotes différents, que c'était lié à plus d'asthme. Et une étude qui a beaucoup marqué aussi, c'est qu'on a retrouvé chez des adultes de 21 ans qui avaient plus d'obésité chez les personnes nées par césarienne avec des microbiotes différents. Donc ça veut dire que ça peut perdurer aussi très longtemps dans la vie.
Alors Patrice Burkel, c'est une des choses qu'on avait évoquées tout à l'heure, mais qui est très remarquable aussi, c'est cette différence. Alors là, voilà un point de départ qui peut induire déjà une différence dès la naissance entre les microbiotes de chacun, mais ensuite, plein d'autres facteurs, j'imagine, influencent ce microbiote qui devient, semble-t-il, une forme de carte d'identité, à la fois de notre individu, mais aussi de notre mode de vie.
À la fois, pour rebondir sur tout ce qui a été dit, il est, pour moi, la phase la plus importante au niveau de ce qui va constituer le microbiote futur reste quand même l'allaitement. L'allaitement est quand même une phase où, comme disait le professeur Debré, il y a un passage très très important d'une partie du microbiote maternel où les bactéries vont circuler d'une manière ou de l'autre, peu importe, et qui vont donc être têtées dans le lait maternel et vont pouvoir s'implanter dans le microbiote. Donc c'est vrai qu'au début de la vie, c'est un peu une loterie, c'est clair. Heureusement, on a quand même un impact extrêmement important à travers l'alimentation, parce que, quelque part, l'alimentation prébiotique, hein, c'est-à-dire les amidons, les fructanes, les fibres, qui sont extrêmement importantes, mais aussi les polyphénols et les bêta-glucanes, participent à cet équilibre au niveau du microbiote et vont pouvoir, soit dans le cas d'un appauvrissement du microbiote, si on n'a pas assez de diversité bactérienne, on va pouvoir réenrichir le microbiote et faire en sorte que, par voie de conséquence, cette nourriture va servir, bien sûr, à ce que les bactéries se développent, se reproduisent, mais aussi produisent des métabolites, c'est-à-dire des molécules qui ont des effets santé extraordinaires. Je prends juste un exemple, le butyrate. Aujourd'hui, butyrate, c'est l'équivalent du glucose pour le cerveau. Si un colonocyte n'a pas de butyrate, pas suffisamment de butyrate, il ne peut pas bien se porter puisque le butyrate représente 70% de l'énergie. Alors, c'est pas parce que j'ai écrit le régime microbiote, mais quelque part, il y a toujours un espoir, même si un microbiote est un peu déviant ou s'il y a une dysbiose, c'est-à-dire un déséquilibre, le fait de pouvoir, à un moment donné, rétablir l'équilibre à travers les prébiotiques est extrêmement important à prendre en considération et je pense que c'est une des grandes voies qui va nous permettre, en dehors de tout ce que vous avez déjà dit par ailleurs, qui va permettre de faire en sorte qu'un certain nombre de personnes puissent retrouver les effets santé liés au microbiote, mais surtout aux molécules qui sont fabriquées par ce microbiote à travers l'apport de prébiotiques.
France Culture, Science Publique, Michel Albergonti.
Notre intestin est-il le pilote de notre santé? C'est la question dont nous débattons aujourd'hui avec nos invités. André Burkel, pharmacien biologiste, expert en immunologie et infectiologie, en nutrition et micronutrition. Patrice Debré, professeur d'immunologie à l'université Pierre et Marie Curie Paris 6. Guillaume Font, psychiatre à l'hôpital Mondor et chercheur à l'INSERM. Et Caroline Tourbe, chef du service médecine du magazine Science et Vie. Alors, à vous écouter, la question qu'on se pose spontanément, c'est de se dire, mais le microbiote a l'air de jouer un rôle très important, et moi, je n'ai aucune information sur le mien en particulier, et je suppose que je ne suis pas le seul à ignorer à peu près tout de ce fameux microbiote. Et c'est d'autant plus étonnant qu'il semble jouer un rôle essentiel, Patrice Debray.
Non, ce n'est pas si étonnant que ça. En réalité, une des grandes difficultés, des raisons probablement pour lesquelles on n'en a pas parlé jusqu'à présent, c'est que c'est très difficile de l'identifier. D'abord parce que ce sont des bactéries qui vivent sans air, dans le noir le plus complet, qui se cultivent extraordinairement difficilement. Et ce n'est finalement qu'avec les méthodes de génomique actuelles, et en particulier ce qu'on appelle, un mot un peu complexe, la métagénomique, qu'on est capable aujourd'hui de pouvoir donc identifier mieux les gènes de ces bactéries. Je vous rappelle qu'en fait, beaucoup meurent aussi. Hein. Et d'ailleurs, ceux qui prolifèrent se reconstituent parfois avec les cadavres de celles qui les entourent. Donc, cultiver est difficile et la génomique est compliquée.
Et l'analyse
Et l'analyse aussi. On rentre dans le domaine de... Vous en avez sûrement parlé dans vos émissions, de ce qu'on appelle les big data. Et ça devient donc par conséquent à la fois des modèles de bioinformatique et de traitements extrêmement complexes.
Guillaume Font et Caroline Tourbe après.
L'autre chose qui est compliquée, c'est que le microbiote évolue au cours de l'intestin et que nous, ce à quoi on a accès, ce sont souvent les matières fécales, donc la partie terminale du microbiote, et que parfois on aimerait bien pouvoir aller voir ce qui se passe dans l'intestin grêle bien en amont, parce que c'est là où il y a le nerf vague, notamment là où c'est très innervé, et que là on n'a pas beaucoup de moyens d'y avoir accès.
Caroline Tourbe.
C'était pour aller dans le sens un peu de l'impression de découverte. Alors il y a découverte ou il n'y a pas découverte? On est clairement dans ce que vous disiez, c'est-à-dire que c'est les outils d'observation qui font que tout à coup on peut prendre conscience, ouvrir une petite fenêtre sur les connaissances. Et c'est pour ça que ça fait 10 ans, vous parlez de toutes les techniques, analyse du génome et tout ce qui est big data, ça fait une dizaine d'années, et c'est pour ça qu'on voit ce sujet émerger, qu'on voit nos bactéries enfin prendre leur place.
Mais écoutez, il n'y a pas si longtemps déjà...
André Burkel voulait intervenir, il est un peu défavorisé par le duplex, donc on lui donne la parole.
Je voudrais juste ajouter, à l'instar de la génomique, dire l'analyse du génome complet et des polymorphismes génétiques, l'analyse du microbiote par multiséquençage, et aujourd'hui une technique très performante dans ce domaine, est quand même largement plus facile, plus accessible que ne l'est aujourd'hui le génome, à la fois au niveau du coût, parce que c'est quelque chose qui est maintenant très automatisé. Et dans certains cas, ça me paraît intéressant, effectivement, de connaître un peu les populations bactériennes hébergées dans le microbiote, parce que d'une personne à l'autre, on peut se trouver des personnes qui n'ont qu'une quarantaine, une cinquantaine d'espèces bactériennes présentes, et d'autres jusqu'à 100, 110. Donc il y a quand même déjà une grosse diversité, soit un microbiote riche ou un microbiote pauvre. Et aujourd'hui, même si le multiséquençage n'est pas encore largement diffusé concernant la composition de la diversité du microbiote, il y a des choses qui sont beaucoup plus abordables aujourd'hui. Ce sont les métabolites, c'est-à-dire, quand je vous parlais du butyrate tout à l'heure, aujourd'hui, il y a une vingtaine de métabolites qui sont les témoins des effets santé ou à l'inverse des problèmes de maladie, et qui sont donc non plus de la génétique, là c'est l'expression directe du gène qui a consommé des aliments qui lui sont appropriés. Donc on est sur du concret avec derrière un certain nombre de solutions extrêmement simples à mettre en place à travers l'alimentation. Donc
On va y revenir. D'accord. Vous êtes plus optimiste sur l'analyse du génome. Guillaume Font, vous voulez intervenir.
Effectivement, je suis d'accord avec ce qu'on disait sur le fait que c'est les techniques qui nous permettent aujourd'hui d'accéder à des réponses potentielles auxquelles on n'avait pas accès, mais que par contre, ça date pas du tout d'hier. L'hypothèse du microbiote au début du XXe siècle, il y avait déjà des psychiatres qui proposaient de traiter la mélancolie, une forme très sévère de dépression, avec des extraits de lait caillé, donc enrichi en bactéries.
Mais regardez, quand on dit que la carotte rend aimable, ça passe peut-être par le microbiote.
Alors oui, c'est une hypothèse. La question que tout le monde doit se poser, c'est comment agir sur ce microbiote qu'on a du mal à cerner apparemment, même si on a une idée très, de plus en plus précise de sa richesse et de son importance. Mais comment agir sur lui pour améliorer cette coexistence, mais surtout avec l'objectif d'améliorer notre santé, Guillaume Font. Est-ce qu'il y a déjà des pistes?
Alors, c'est des choses qui vont pas beaucoup surprendre nos auditeurs, je pense. C'est que ce qu'on a démontré, c'est notre régime alimentaire a un potentiel inflammatoire. C'est-à-dire qu'il y a des choses dans l'alimentation qui créent de l'inflammation dans le tube digestif. Et une des fonctions de nos bactéries sont de nous protéger aussi contre cette inflammation. Et donc ces aliments-là, ils sont connus. En fait, c'est tout ce qui est riche en sucre rapide et en graisse saturée. Donc voilà, on en revient toujours à la même chose. C'est-à-dire qu'il faut privilégier des aliments donc les moins transformés possibles, les plus riches en protéines et en fibres. Donc les fibres, ce sont des substances qu'on dit prébiotiques, parce que donc ce sont nos bactéries qui vont se nourrir de ces fibres et que ça va permettre leur stabilité et de protéger notre barrière intestinale. Donc ça veut dire manger plus de légumes verts, plus de salades, on revient toujours là, plus de fruits, et moins de nourriture junk food.
Alors, Dany Journeau, qui s'inquiète, qui est notre réalisatrice, s'inquiète pour, vous s'interroge sur l'impact du jeûne, par exemple, sur cette population de bactéries, Patrice Debré.
Non, c'est très important. C'est assez curieux parce que je viens de retrouver que, assez récemment, un article d'un très très grand journal qui s'appelle la revue Nature, vous savez, 2014, c'était en 2014, où on a pris des individus, on les avait fait manger tantôt en végétarien pendant 8 jours et tantôt au contraire que de la viande. Et on changeait les microbiotes du tout au tout.
Reste à savoir. Très rapidement.
Donc. Ah, mais très rapidement. Reste à savoir si ça a un impact et de quelle nature. Mais il y a des moyens quand même plus rationnels d'arriver potentiellement, je dis bien potentiellement, à pouvoir comprendre ce que vous faites avec, on va peut-être en dire un mot, les probiotiques ou des prébiotiques.
Voilà, c'est là où on en arrive effectivement à ces deux grandes actions peut-être externes, là où au lieu de consommer des aliments qui vont participer à l'alimentation des bactéries et de notre organisme, accessoirement, on va dire, il y a aussi l'ingestion de ces prébiotiques et probiotiques. Alors, est-ce que Caroline Thau peut-être peut nous expliquer en deux mots de quoi il s'agit?
Oui, les prébiotiques, c'est de la nourriture pour les bactéries.
Beaucoup de sucre.
Mais en tout, c'est ce qui les nourrit. Et les probiotiques, en fait, c'est une façon de dire bactéries. C'est qu'on mange carrément les bactéries. On les ingère, alors, sous forme de capsules ou ça, je ne vais pas rentrer dans les détails.
C'est le yaourt, ça commence par le yaourt.
Ou le yaourt, voilà, le lait caillé. Donc les prébiotiques, c'est de la nourriture pour vos bactéries. Les probiotiques, c'est des bactéries que vous avalez.
La grande difficulté avec l'un comme pour l'autre, d'ailleurs, c'est, bien sûr, vous pouvez ingérer des prébiotiques ou des probiotiques, mais il est impossible de savoir l'effet qu'ils ont. Il faut pour ça arriver à comprendre ce qu'on est en train de contrôler au même moment, à l'intérieur d'un espace qui, il faut le rappeler quand même, c'est l'équivalent de deux cours de tennis, 400 mètres carrés, qui sont bourrés de bactéries. Donc, entre la bouche et le rectum, vous en avez avec toute une surface considérable. Où s'arrête votre probiotique, où continue votre prébiotique, quelles sont les bactéries que vous nourrissez? Très compliqué à savoir, il n'y a pas d'essais réellement contrôlés qui peuvent le dire.
Guillaume Font.
Et l'autre chose qui est compliquée quand on ingère des probiotiques, c'est qu'il y a seulement un tiers des bactéries qui survivent au passage de l'estomac. La fonction majeure de l'estomac, c'est justement de détruire la plupart des microbes de notre alimentation pour le protéger.
Caroline Tourbe.
Oui, justement, il y a des essais. Hein, je sais pas, on va peut-être commencer peut-être à parler. Il y a des essais qui sont menés. Alors, il y a des résultats assez spectaculaires sur l'animal, souvent la souris.
La première étape, effectivement, où on en est actuellement, c'est effectivement déjà d'écrire les microbiotes, comme l'a dit le professeur Debré, qu'est-ce qui fait la différence entre le microbiote d'une personne qui va développer un autisme, d'une personne qui va développer une schizophrénie, d'une personne qui va développer une dépression, une anxiété. Et donc, la première question, c'est aussi comment cibler les sous-groupes de personnes dont l'origine de la maladie pourrait être liée au microbiote, puisque donc ça coûte encore malgré tout assez cher. On peut pas le faire en pratique clinique courante, hein, ça reste du domaine de la recherche. Et malheureusement, il faudra encore attendre quelques années avant d'avoir en psychiatrie des applications concrètes. Mais on a déjà des études chez les enfants autistes qui démontrent des modifications de certaines espèces bactériennes qui sont présentes alors qu'elles ne devraient pas l'être. Et alors, de façon très intéressante, c'est qu'on a aussi retrouvé ces perturbations du microbiote chez les frères et sœurs des enfants autistes qui eux-mêmes n'avaient pas développé un autisme. Donc en fait, on est en train de s'interroger sur la composante génétique, la composante environnementale, donc quelle est la part de l'alimentation, quelle est la part de facteurs d'influence urbaine, par exemple. Voilà, on en est à ce stade.
Patrice Debray.
Et si on en est aux modifications du microbiote, il y a cette bonne vieille technique qui remonte du fond des âges, plusieurs milliers d'années chez les Chinois, qui est ce qu'on appelle la transplantation fécale. Une soupe jaune qu'on prenait alors pour traiter les diarrhées, qui est aujourd'hui utilisée dans certains cas, en particulier d'infections à Clostridium difficile, donc une bactérie qui résiste aux antibiotiques, à transplantation, comme on fait des transplantations cardiaques, de foie et d'autres. Il y a maintenant les transplantations fécales.
Donc il pourrait y avoir une espèce de microbiote idéal qui servirait
idéal,
à soigner.
Idéal, il faut faire très attention. Il y a quelque temps, on a publié un cas, vous me direz, mais c'est un cas tout à fait particulier quand même, où on a transplanté avec des selles une femme qui est devenue obèse. On s'est aperçu que le donneur était elle-même obèse.
Guy, au fond.
Il y a eu une étude très spectaculaire dans l'autisme au début des années 2000 aussi, qui a fait couler beaucoup d'encre, où on administrait un antibiotique, la vancomycine, à des enfants autistes et leurs symptômes d'autisme s'amélioraient. Et à l'arrêt du traitement par vancomycine, les symptômes réapparaissaient. Alors aujourd'hui, il faut bien préciser pour nos auditeurs qu'on ne traite pas des perturbations du microbiote avec des antibiotiques, parce que les antibiotiques ont un spectre large et donc on risquerait de faire beaucoup plus de mal que de bien en détruisant des bactéries qui sont bonnes et qui protègent l'individu, avec tous les risques de résistance qui sont bien connus aussi. Mais en tout cas, donc, ce sont une des questions, voilà, l'effet des antibiotiques, avec l'hypothèse par exemple que certains troubles psychiatriques pourraient être déclenchés par des gastro-entérites ou par une prise d'antibiotiques, et notamment dans l'âge petite enfance, au moment où le microbiote influence beaucoup le développement du cerveau.
André Burkel.
Je crois que même si aujourd'hui on peut évaluer le microbiote, même si on peut évaluer les molécules fabriquées par le microbiote, il y a quand même des choses aujourd'hui très simples. On a une connaissance approfondie de la nourriture des bonnes bactéries, surtout les bactéries qui fabriquent des acides gras à courte chaîne ou qui fabriquent des phénols ou des choses comme ça à partir des polyphénols. Donc aujourd'hui, l'approche peut être très simplifiée pour les patients qui ont soit des problèmes ou qui veulent tout simplement faire de la prévention, même s'ils ne connaissent pas forcément fondamentalement leur microbiote ni les molécules qui sont fabriquées par les bactéries. C'est d'apporter une nourriture équilibrée au niveau des prébiotiques. Et aujourd'hui, on a les capacités, à travers une enquête alimentaire, partant de tableaux qui contiennent les quantités de chacun de ces aliments et de faire en sorte que les quantités souhaitables soient apportées au quotidien par ces personnes. Bien sûr, il y a ceux qui font cette gymnastique depuis toujours, ce sont ceux qui mangent des légumineuses, des céréales, puisque l'essentiel des prébiotiques sont contenus en dehors des polyphénols, sont contenus dans les légumineuses et céréales. Donc il y a déjà des personnes qui sont rompues à cela. Même celles qui ont peur de se mettre aux légumineuses, peur de se mettre aux céréales parce que il pourrait y avoir des ballonnements, il pourrait y avoir des problèmes digestifs et tout ça. Il suffit de faire comme quand on était bébé. C'est-à-dire, on nous donnait une petite cuillère du premier aliment et c'est comme ça qu'on introduit la tolérance à quelque chose qu'on ne supporte pas forcément en y allant tout de suite avec des grosses quantités. Pour moi, c'est une approche qui va faire appel aux diététiciennes qui vont aider le corps médical à faire en sorte que les patients apprivoisent ce qui aujourd'hui ne l'est pas forcément, qui sont des choses qui font parfois un peu peur parce qu'on se dit je vais pas trop bien supporter. et puis quelque part mettre en place cette manière de s'alimenter qui existait autrefois, qui s'est un peu perdue en cours de route. Et il faut être très clair, hein, ce sont pas les fruits, les légumes qui apportent les prébiotiques, ce sont essentiellement les légumineuses.
On va y revenir. Patrice Debré, vous avez cité tout à l'heure, c'est votre spécialité, l'immunologie. Là aussi, un autre impact important, semble-t-il. Est-ce qu'on peut revenir sur la façon dont on pourrait agir sur le microbiote pour favoriser la santé de notre système immunologique? Ou l'efficacité, la santé, c'est peut-être pas le bon terme.
Agir sur le microbiote, nous en avons vu les différentes phases possibles. Oui. Vous avez l'alimentation, les prébiotiques, on le rappelait, les probiotiques, qui sont donc les bactéries elles-mêmes. Vous avez les antibiotiques, ce qu'on appelle les xénobiotiques. Et enfin, vous avez la transplantation fécale. Donc, je suppose que vous faites allusion à vos relations avec le système immunitaire. Parce qu'en fait, si nous revenons à un point quand même de curiosité majeure, c'est: comment fait-on pour tolérer ces bactéries? Quand j'ai commencé mes études d'immunologie à la faculté, eh bien, on distinguait ce qu'on appelle le soi et le non-soi. C'était comme ça qu'était défini d'ailleurs. Aussi bien, je me retourne vers un collègue psychiatre, aussi bien dans la philosophie complète de l'individu que dans sa partie biologie. Le soi et le non-soi. Et puis on s'est arrivé à dire, mais c'est pas possible, puisque le soi, on est composé de non-soi. Donc, comment fait-on pour imaginer que marche ce système? Et en réalité, l'immunologie est avec une notion de danger. C'est en fait le sens du danger. Ces bactéries qui sont en nous, il y a un tout petit degré d'inflammation, comme vous le citiez tout à l'heure, mais qui est infime. Et ce n'est que lorsque ce système est dépassé que le système immunitaire se met en route. Donc, je crois que ça nous apprend, au fond, aux interactions très fines qui existent entre les bactéries d'un côté et le système immunitaire de l'autre, et comment se fait cette tolérance que nous avons pour toutes celles qui vivent en nous, avec nous, et on va dire d'une certaine manière par nous, puisqu'on est en train de les nourrir, on en a parlé tout à l'heure.
Guillaume Font.
Et alors ce qui est très étonnant, c'est qu'on se rend compte que chez les patients qui souffrent de dépression, de troubles bipolaires ou de schizophrénie, il y a des perturbations immunologiques, et ce, dès le premier épisode de la maladie. Donc il y a des liens, effectivement, entre l'immunité et le cerveau qui sont...
C'est-à-dire leur système immunitaire est affaibli ou...
Alors en fait, parfois il est affaibli, parfois il est renforcé. En fait, il y a plusieurs types de réponses immunitaires. Il y a des réponses qui passent par des cellules de l'immunité, d'autres par des anticorps. Et en fait, on trouve donc des différences immunitaires immunologique selon le type de maladie psychiatrique au premier épisode, et le cerveau est très influencé par le système immunologique de l'organisme, mais à l'intérieur du cerveau également, et là on est en pleine phase de découverte des liens entre l'immunité et le cerveau.
France Culture, Science Publique, Michel Alberganti.
Nous débattons aujourd'hui la question « Notre intestin est-il le pilote de notre santé ?» avec nos invités. André Burkel, pharmacien, biologiste, expert en immunologie. Patrice Debré, professeur d'immunologie à l'université Pierre et Marie Curie. Guillaume Font, psychiatre à l'hôpital Henri Mondor et chercheur à l'INSERM. Et Caroline Tourbe, chef du service médecine du magazine Science et Vie. Alors on parle beaucoup d'action sur ce microbiote, par les prébiotiques, les probiotiques. Mais est-ce qu'on a une action aujourd'hui qui peut être sélective, par exemple, en fonction d'un problème de santé particulier? Est-ce que l'on a les prébiotiques qui correspondent? Ou est-ce que c'est donner un petit peu de vigueur à nos bactéries, mais sans trop de sélectivité, Patrice?
Non, je crois qu'on n'en est pas là. C'est des pistes extrêmement intéressantes de recherche, à la fois de recherche académique fondamentale, mais aussi de recherche industrielle pour arriver à un nouveau produit. Je reviens une minute sur ce que disait mon collègue, parce que c'est effectivement absolument fascinant. C'est une nouvelle vision de la psychiatrie, peut-être une des pistes possibles, en tout cas, l'identification de nouveaux biomarqueurs, et derrière les biomarqueurs, de causalité entre des phénomènes qui avant passaient aussi par des dérivés psychanalytiques et qui maintenant arrivent à de la biologie très profonde et extrêmement, extrêmement fascinante, pour lequel le microbiote a sans doute un rôle à jouer.
Alors, on a parlé beaucoup des maladies psychiatriques parce que Guillaume Font est avec nous, mais dans ce qu'on n'a pas peut-être bien souligné, c'est la diversité des maladies qui sont potentiellement soignables. On peut, dans le dossier de Science et Vie, celles qui sont citées, c'est l'obésité, le diabète, l'autisme, la dépression, là on retrouve les maladies psychiatriques, la schizophrénie, l'anorexie, l'alcoolisme, l'asthme, les allergies, la sclérose en plaques et les cancers. C'est quand même un spectre extrêmement large de pathologies.
On va fasciner nos auditeurs parce que d'un côté, ils ont entendu parler des microbes comme étant responsables de ces grandes épidémies qui déciment le monde. On le voit tout le temps. Presque tous les jours, il y a une épidémie.
Oui, le Zika en dernier.
On rappelle quand même qu'il y a 14 millions de personnes dans le monde qui meurent chaque année à cause des microbes. Et puis de l'autre, on est en train de parler de toute une série de microbes qui vivent en nous et qui sont capables de donner un nombre absolument incroyable. Alors attendez, je vais trop loin, disons ça. Dont la présence est corrélée avec un nombre incroyable de maladies. Alors, on ne sait pas encore les relations de cause à effet, ça peut être d'ailleurs des épiphénomènes. Hein. Mais effectivement, quand vous passez de l'obésité aux troubles psychiatriques, au cancer, aux maladies auto-immunes et aux maladies allergiques, vous avez une panoplie de ce qu'on appelait des maladies dites non transmissibles et qui sont, d'une certaine manière, à relier aux microbes.
Et sur lesquels, donc, on peut rêver d'agir, enfin, du moins, on peut rêver d'agir sur le microbiote pour l'aider à résister,
Je suis content que vous reviez là-dessus, parce que ça va certainement aider nos décideurs politiques, et ceux en particulier qui sont dans les grandes agences qui distribuent de l'argent pour des programmes de recherche, à conduire, et c'est ce qui est le cas notamment pour un programme qui a débuté à l'INSERM, à conduire de grands projets, de grands programmes pour essayer de comprendre et de quelle manière nous pouvons d'abord trouver des liens entre ces maladies et le microbiote, de manière plus particulière, de façon à pouvoir par la suite arriver à des traitements spécifiques.
Alors en attendant les résultats de toutes ces recherches, puisque visiblement on en est encore à des stades intermédiaires entre la découverte de ce qui constitue ce microbiote et puis aussi l'action sur lui, est-ce que déjà on peut dire quelque chose sur certains types de nourriture, comme la nourriture plutôt industrielle, les plats préparés, enfin toute la nourriture transformée? Est-ce que là il y a des pistes pour connaître un peu les effets positif ou négatif de ce type de nourriture par opposition à la nourriture bio, je ne sais pas, Caroline Tourbe.
Mais c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a toute une partie de notre alimentation moderne qui est composée d'aliments très raffinés.
Bon, Michel, enfin, c'est raffiné, ça. Oui,
transformés,
raffinés,
oui,
pas forcément raffiné, le terme.
C'est pas le terme exact toujours, mais en tout cas très transformés, et que cette tendance à aller vers ces aliments-là n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux pour notre microbiote. C'est quelque chose qui est un peu empirique, mais qui se vérifie quand même dans des expériences, encore une fois, beaucoup sur l'animal. Mais on voit qu'il y a un lien indirect. Et ce qui peut être marrant d'ailleurs à souligner, c'est que l'industrie agroalimentaire qui nous vend beaucoup de ces aliments transformés, elle commence à recentrer, on en parlait un peu, son spectre de recherche vers des aliments qui seraient des aliments médicaments qui viendraient aider notre microbiote. Alors c'est un peu paradoxal, mais en tout cas c'est vrai que des grosses industries comme Nestlé ou Danone sont extrêmement intéressé par le microbiote et trouverait que c'est une excellente idée de pouvoir nous vendre des probiotiques ou des prébiotiques plutôt qui seraient bons pour notre santé tout en continuant à nous vendre peut-être des aliments dont on sait que clairement ils sont pas bons pour le microbiote. Voilà, c'était
étudié, vous voyez ça. Il y a des observations quand même curieuses, on peut remarquer que chez les Japonais qui mangent des algues, eh bien, on trouve des bactéries qui sont des bactéries spéciales qu'on trouve nulle part ailleurs et qui sont capables de couper les algues, de digérer les algues plutôt. Et donc, comme quoi, finalement, ils ont adapté leur microbiote à leur alimentation.
Alors, il y a aussi des régimes un peu particuliers. On parle souvent du régime crétois ou d'endroits sur Terre où la population, par exemple, a une longévité particulière et certaines absences de maladies. André Burkel.
Je voudrais juste avant ça citer un exemple simple qui cette fois-ci a été testé sur l'homme. Vous prenez une huile qui n'a pas été transformée et que vous utilisez en assaisonnement ou pour faire la cuisson, et vous prenez une autre huile que vous émulsionnez. Bien, il y a dans le microbiote des bactéries qui sont des bactéries gram-négatives qui ont une paroi particulière qui va se fixer sur les gouttelettes lipidiques qui ont été émulsionnées, qui vont être donc absorbées en grande partie par l'intestin, alors qu'il n'y a aucun problème de perméabilité. Eh bien, on se retrouve face non seulement à une absorption d'une huile qui a des caractéristiques physico-chimiques différentes de celles qu'on connaît habituellement, mais on se retrouve avec des bactéries qui sont passées, et qui vont se promener, elles vont aller soit au niveau du foie s'il y a une petite inflammation, parce qu'il y a une attraction quand il y a une inflammation, elles vont aller au niveau du tissu adipeux, et pire, elles vont aller au niveau du cerveau, où on sait aujourd'hui qu'un certain nombre de troubles comportementaux peuvent être liés à ce type de bactéries qui induit des messages à distance.
Vous voulez dire qu'une simple, une simple huile peut provoquer le passage de bactéries dans, dans le système
quand elle est émulsionnée. Oui, quand elle est émulsionnée. Oui, parce que les, ces bactéries se lient très facilement à ces gouttelettes lipidiques qui vont donc passer par une voie d'absorption naturelle sans qu'il y ait forcément une perméabilité intestinale. Et quelqu'un qui souffre du foie, qui a un problème déjà métabolique, ben c'est pas bon du tout. Ça va entraîner ou ça va renforcer l'inflammation. Vous parliez du régime crétois. Je suis content que vous en parliez parce que pour moi, on ne peut préconiser un régime qu'à l'aune de l'utilisation de ce régime pendant des millénaires. Ça a été le cas du régime crétois, qui est très différent du régime méditerranéen.
En deux mots, vous pouvez nous le décrire, parce que peut-être que tout le monde ne le connaît pas.
Tout simplement, il y a un apport d'un acide gras qui est très particulier, qui est l'acide alpha-linolénique, qui a des propriétés que n'ont pas les acides gras qui sont contenus dans les autres huiles. Et c'est ce qui a fait, à un moment donné, la grosse différence entre un régime méditerranéen qui n'apporte pas en quantité cet acide gras par rapport au régime crétois.
Et cet acide gras vient de quel aliment?
C'était le pourpier en Crète et en France. Il y a eu une huile qui a été mise à l'index, qui était l'huile de colza, qui en contient beaucoup aussi et qui est équilibrée. Pour terminer, la même chose a existé à un moment donné avec le régime qu'aujourd'hui j'appelle le régime microbiote, mais qui est tout simplement copié sur les traditions ancestrales chez nos grands-mères avec la cuisson des légumineuses, la cuisson des céréales. Tout ça a été beaucoup utilisé, a beaucoup disparu. La preuve, ça va être l'année 2016 va être l'année des légumineuses et pour cause. Donc voilà deux régimes qui peuvent parfaitement se marier et apporter leur lot de santé à de nombreuses personnes.
Vous allez Patrice Debray.
Il y en a entre plein d'autres. L'historique de l'intérêt des pruneaux d'Aja, vous savez que qu'on prend dans, bien vient de là en fait. Hein. Ça stimule un certain type de microbiote particulier. Cela dit, parmi tous les échanges que nous avons faits à travers l'alimentation, etc., il y en a un qui nous manque, qui est un des premiers échanges du microbiote, qui est celui du baiser, puisque vous transmettez à travers la salive des centaines de milliers d'espèces bactériennes.
Est-ce que c'est l'objectif, la raison d'être du baiser, à votre avis?
Je n'ai pas dit ça.
Est-ce que ça peut être justement bénéfique ou pas forcément?
Cela dit, c'est l'apanage des hominidés.
Voilà, mais alors...
Bénéfique, je pense pas forcément, puisque nous avons un contre-poison. Non, parce que nous avons un contre-poison extraordinaire, c'est la bile. La bile qui nous évite, qui tue la majorité des bactéries qui viennent de la bouche, parce que dans la bouche, il y a beaucoup de bactéries qui sont bonnes, mais il y en a beaucoup qui sont pathogènes. Donc on a un moyen extraordinaire pour contrecarrer ça en fabriquant de la bile.
Alors, Guillaume Font, en tant que psychiatre, est-ce que vous, déjà, vous devez être tenté d'utiliser ce genre de... ou d'expérimenter, évidemment, mais aussi d'arriver assez vite à pouvoir utiliser des régimes alimentaires, peut-être, pour soigner ou pour compenser certaines difficultés lié à des maladies psychiatriques?
Bien sûr. Alors, on n'imagine pas à quel point c'est compliqué de travailler sur l'alimentation. On en est encore au stade de définir un questionnaire alimentaire validé en français, parce qu'il y a des questionnaires validés dans des populations américaines ou australiennes qui n'ont pas du tout le même type d'alimentation que les Français. Et il n'y a pas de questionnaire validé chez les personnes, en fait, d'âge moyen. Il y a des questionnaires chez des personnes âgées ou chez certaines populations très ciblées. Mais donc, on en est encore au stade, simplement, de pouvoir décrire ce que les gens mangent pour pouvoir comprendre les liens avec leur pathologie. Comme on disait, d'ores et déjà, avant, en fait, on faisait les recommandations alimentaires pour des problèmes d'obésité, par exemple. Mais ça s'arrêtait là. Maintenant, en fait, chez les personnes qui souffrent de schizophrénie, qui viennent au centre expert schizophrénie, on a un centre expert bipolaire, un centre expert autisme, un centre expert dépression résistante aussi. On recommande, par exemple, chez certains patients qui ont des marqueurs d'inflammation, ça représente 28% des patients, presque un tiers des patients, on recommande, par exemple, la prise de compléments alimentaires alimentaire aussi. Il y a des études sur les oméga 3. On a parlé de l'acide alpha-linolénique. Donc les oméga 3 pourraient avoir des propriétés très intéressantes, dont on découvre chaque année de nouvelles propriétés au niveau de la fluidité neuronale, au niveau des effets anti-inflammatoires aussi centraux, avec des résultats très hétérogènes dans les études. On pense que plus on arrive tôt et plus on est efficace, donc il y aura un effet de prévention avec une protection du cerveau qui pourrait être très intéressante, et aussi d'autres compléments alimentaires comme la N-acétylcystéine, c'est un acide aminé modifié qui a des propriétés antioxydantes dans le cerveau quand il est métabolisé. Donc en fait, dans l'alimentation, on a aussi donc des stratégies qui passent pas forcément directement par prébiotiques ou probiotiques pour permettre d'améliorer la santé mentale de nos patients.
Alors Caroline Tourbe, on voit quand même beaucoup de difficultés encore avant de pouvoir agir directement et avec discernement sur le microbiote. C'est déjà, comme vient de le dire Guillaume Font, il est difficile de définir l'alimentation de quelqu'un, il est difficile d'analyser le microbiote lui-même, donc encore plus difficile j'imagine de trouver des corrélations très fiables entre certaines maladies et certains états du microbiote. Donc c'est quelque chose qui... Il y a une perspective, beaucoup de promesses, mais encore pas de réalisation.
C'est un sujet où il faut avoir le pied sur le frein et sur l'accélérateur en permanence, et c'est un peu ce qu'on fait là depuis le début de l'émission, c'est-à-dire que sur l'accélérateur, parce que c'est vrai qu'on voit qu'il y a un foisonnement de connaissances et qui ouvre des perspectives incroyables, enfin c'est passionnant vraiment, et puis le pied sur le frein parce qu'on est face, enfin, surtout vous êtes confronté à des gens qui sont malades ou dont les proches sont malades, qui veulent des solutions et des solutions rapides, et qui veulent parfois croire qu'on a déjà ces solutions-là et avant que les preuves puissent être apportées. Et du coup, qui peuvent aller au-devant de déconvenues, voire peut-être même mettre leur santé en danger s'ils venaient à appliquer. On a parlé de fécalothérapie, c'est très à la mode la fécalothérapie. On est sur de la médecine, parfois la médecine parallèle, vraiment, avec des propositions de fécalothérapie sans avoir le début d'une preuve solide. Donc il faut aussi raison garder, se dire que c'est passionnant, c'est foisonnant, qu'on est à un moment, un tournant de l'histoire du microbiote et des connaissance qui est passionnant et que les choses vont aller sûrement plus vite qu'elles n'ont jamais été auparavant, mais qu'on est vraiment aussi à un moment où il faut se méfier de soi-même et peut-être de cet enthousiasme et de cette... C'est plutôt voir un peu la situation comme si on était à une table de poker, que depuis longtemps on jouait et qu'on s'était pas aperçu qu'il y avait un joueur qui était le microbiote, qui lui aussi peut miser, peut jouer, on s'en était même pas aperçu, bon il est là, il faut le prendre en compte.
Alors voilà, on a tourné un petit peu toujours autour de cela. Il se trouve que les dernières années ont été, depuis le début du 21e siècle, marquées par la génomique, par le décryptage du génome et par les perspectives d'action sur ce génome aujourd'hui. Est-ce que là, il n'y a pas un rééquilibrage, Patrice Debré, entre gènes et bactéries?
Je veux dire que l'étude des gènes est un des procédés et un des moyens qu'on a pour essayer de comprendre le vivant d'une manière générale. Mais peut-être ce qui rejoint des conversations que vous avez eues antérieurement avec d'autres auditeurs, et que vous pouvez imaginer, mais là aussi imaginer, modifier les bactéries elles-mêmes et avoir en fait des bactéries modifiées qui par la suite vont devenir des outils thérapeutiques. Il y a quelques expériences qui vont dans ce sens avec des bactéries qui permettent en fait de sécréter de l'insuline in vivo chez les animaux, bien sûr, et qui arrivent à traiter, par conséquent, des modèles expérimentaux de diabète.
Et là, est-ce qu'on ne touche pas, justement, à des équilibres écologiques
bien sûr.
Et qu'on est sûr, un petit peu dans la position de l'apprenti sorcier.
Je crois que ce que nous faisons autour de la table, et je l'espère à travers les ouvrages que nous avons écrits, dont on espère que vous, les lecteurs, les liront derrière, c'est tout simplement dire à ceux qui nous écoutent la compréhension de ce qu'on sait aujourd'hui. On est très loin de pouvoir arriver encore à moduler suffisamment les systèmes parce qu'on n'est déjà pas capable de comprendre complètement ce qui est en train de se passer. Mais on a mis le doigt sur une problématique qui, alors je le répète assez souvent, est née au 19e siècle. La première personne qui a posé la question, c'est Louis Pasteur. Et c'est étonnant que depuis le 19e, finalement, ce problème revient aujourd'hui à la mode avec des associations de maladies dont personne n'aurait imaginé à un moment donné qu'elles avaient une relation potentielle, je dis bien potentielle, de cause à effet. Et il faut essayer, c'est assez intéressant de comprendre pourquoi, pendant tout le XXe siècle, on a occulté tout ça. Et il y a des tas de raisons, avant tout la difficulté, on l'a dit tout à l'heure quand on en parlait, de pouvoir étudier ces bactéries parce qu'elles sont au plus profond de nous-mêmes. Elles ne sont pas cultivables, sinon extrêmement difficilement, il faut aller les chercher. Et ce n'est que par l'arrivée de la génomique et technique de biologie moléculaire et d'études des big data qu'on est arrivé aujourd'hui à pouvoir avoir ces nouveaux marqueurs qui peuvent à la fois les identifier mais comprendre des modifications de population.
Guillaume Font.
Dans le champ de la psychiatrie, c'est exactement ce qu'on a vu, c'est qu'au cours du XXe siècle, effectivement au début du XXe siècle, on cherchait des thérapies pour soigner les maladies mentales, et c'est l'avènement de la psychopharmacologie qui a fait qu'en fait on a mis de côté tout un champ de thérapie, et on revient en fait à cette exploration aussi parce qu'on voit que les traitements psychotropes que l'on prescrit aujourd'hui ne marchent pas chez tout le monde.
Alors, je merci pour cette phrase de conclusion, parce que là, on m'a rejoint. Oui, alors, on n'a plus trop le temps, juste très vite. Alors.
Ça modifie sans doute votre vision de la psychanalyse, non ?
Ah, complètement.
Voilà, alors là, on va rentrer dans un autre sujet que nous gardons pour une autre émission. Je ne résiste quand même pas à citer la phrase qui conclut le dossier de Science et Vie, et qui renvoie à, vous parliez de Louis Pasteur tout à l'heure, mais là, qui renvoie à Hippocrate, qui, il y a 24 siècles, a écrit « L'origine de toutes les maladies se trouve dans l'intestin », ce qui, quand même, donne une antériorité assez importante à ce questionnement. Merci à Patrice Debré, André Burkel, Guillaume Font et Caroline Tour d'avoir participé à cette émission. Pour approfondir ce sujet, vous pouvez lire le dossier publié dans Science et Vie du mois d'avril, intitulé « Les super-pouvoirs du ventre », écrit par Elsa Abdoun avec Kera Batayeb, Fiorenza Grassi et Héloïse Rambert, le numéro d'avril de Science et Vie. Sur notre site, vous trouverez les références des ouvrages écrits par nos invités. L'homme microbiotique de Patrice Debré, publié chez Audi Jacob en 2015. Le régime microbiotique, la santé passe par nos intestins d'André Burkel, qui vient de paraître chez Mediclaro. Ainsi que les références du best-seller de Julia Enders, Le charme discret de l'intestin, publié en 2015 chez Actes Sud. Science publique, Dany Journaud, Nicolas Delmas, avec Céline Finet de France Bleu Toulouse pour le duplex, Marie Dalquier et Michel Albergantier.